Ce texte de l'évangile de Marc que nous venons d'entendre, nous l'avons entendu parce qu'il fait partie des lectures qui nous étaient proposées pour ce dimanche dans un grand nombre d'églises chrétiennes, ce qu'on appelle les lectures du jour. Alors vous savez que dans l'Église protestante unie de France, et en particulier dans les paroisses réformées, nous ne nous sentons pas du tout obligés de prendre comme sujet de prédication ces textes dits du jour. Et d'ailleurs, et en particulier ici, nous le faisons rarement. Mais, bien que ce texte ne soit pas du tout évident ni à entendre ni à commenter, il est tellement fondamental que tout en sachant que je ne pourrais pas l'explorer en détail, j'ai pensé que c'était tout simplement pas possible de ne pas de passer à côté, de ne pas en parler, surtout aujourd'hui. Et si j'ai choisi, en revanche, en première partie, les versets d'Ésaïe que Yann nous a lus juste avant, c'est parce que je suis sûre que vous l'avez remarqué en entendant les textes l'un après l'autre, il me semble que cette première lecture peut éclairer de manière très positive notre compréhension de la seconde. Alors d'abord, dans ce texte d'Ésaïe, même si on ne tient pas compte du contexte historique, et n'en tenons pas compte dans un premier temps, les deux premiers versets, « Cherchez le Seigneur pendant ou tant qu'il se laisse trouver, ou même puisqu'il se laisse trouver, invoquez-le tant qu'il est proche. » Ces deux injonctions répondent totalement à notre propre questionnement, notre questionnement intime sur la foi. La foi, recherche de Dieu, recherche qui peut donner un sens à notre vie. Ce texte nous encourage à la pratiquer autant que nous le pouvons. Mais il nous dit aussi deux choses fondamentales. L'objet de cette recherche, quelque chose de l'ordre d'une proximité avec Dieu. Cette proximité dépend certes de notre recherche, mais elle dépend d'abord du Seigneur lui-même. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver, pendant qu'il est proche. Et d'un coup, l'autre élément important s'entend en filigrane. Il faut d'autant plus profiter de l'occasion que ces moments sont rares. Il y a bien des moments, et nous le savons tous, même si l'obscurité n'a pas la même durée ni la même intensité pour tous, des moments très fréquents où le Seigneur ne se laisse pas trouver du tout, des moments où même quand nous parvenons à croire, c'est-à-dire à le chercher vraiment, nous avons l'impression qu'il est très loin. Et c'est tout à fait rassurant, pour ne pas dire encourageant, de constater que ceux à qui Ésaïe s'adressait, et sans doute Ésaïe lui-même déjà, vivaient souvent aussi dans ce sentiment d'obscurité et d'abandon. Alors maintenant, en fait, si on regarde les circonstances, ce qu'on croit savoir, ce qu'on sait à peu près, des circonstances de la création de ce texte. Eh bien, les fils d'Israël avaient eu pendant de longues années, et en particulier depuis la chute de Jérusalem en moins 587 et la déportation à Babylone les années suivantes, ils avaient eu toutes les raisons de se sentir abandonnés. Mais voilà que plus de 40 ans après cette catastrophe, qui n'était pas une extermination, mais qui pouvait déjà ébranler la foi du peuple juif. Le texte est produit par celui qu'on appelle, en jargon théologien, le Deutéro-Ésaïe, le deuxième Ésaïe, celui qui s'exprime presque 200 ans après le premier, dans la deuxième partie du livre. Le livre dit du prophète Ésaïe est en fait en trois parties. Le Deutéro-Ésaïe s'exprime dans la deuxième partie du livre. dans les chapitres 40 à 55, donc le texte qu'on vient d'entendre, c'est justement la conclusion, fait partie de la conclusion de ce deuxième partie du livre d'Ésaïe. Et qu'est-ce qu'il dit, le Deutéro-Ésaïe ? Il dit, pourquoi il écrit comme il écrit ? La libération que les Israélites n'espéraient plus approche. Le roi perse, Cyrus, est entré dans Babylone en triomphateur et conformément à sa politique de despote, on ne va pas dire éclairé, c'est peut-être un anachronisme et un contresens, mais au moins de despote relativement tolérant, il va faire proclamer aux captifs la libération. Il va permettre à ceux qui le désirent de rentrer chez eux et à tous de pratiquer leur culte. La libération donc approche. Dieu est proche pour Ésaïe. Et Ésaïe dit aussi qu'il faut maintenant le chercher et peut-être le chercher davantage avec son cœur plutôt que par des sacrifices. Dieu est proche parce que son intervention est imminente. Et maintenant qu'il est proche, il faut absolument, c'est un impératif, se mettre en marche et le chercher. Et à ceux qui commenceraient à pinailler, peut-être tout simplement parce qu'ils n'ont pas très envie de reprendre la route, qu'ils ne sont pas si mal installés, à ceux qui s'indigneraient que l'intervention de Dieu en faveur de son peuple se fasse par l'intermédiaire d'un roi étranger, et il y en a, le Deutéro-Ésaïe explique qu'ils ne sont pas capables de comprendre, qu'ils sont limités par leurs conditions humaines, une condition qui les maintient dans un état d'esprit terrestre, pédestre. Un état d'esprit tellement éloigné de la transcendance divine qu'il risque même de les entraîner à s'opposer à Dieu. Et d'une certaine manière, on l'a entendu, c'est également ce que Jésus reproche à Pierre. Et avec quelle dureté ! Va-t'en derrière moi, Satan ! Tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les humains. Pierre, qui a essayé de le faire taire après avoir entendu l'épouvantable annonce de la passion. Je vous propose d'écouter comment Calvin commente la scène dans sa belle langue du XVIe siècle. Les disciples étaient comme en suspens, abreuvés de vaines espérances, attendant le point et l'heure à laquelle Christ manifesterait soudainement la gloire de son règne. Mais Jésus avait alors montré qu'il lui fallait commencer son règne, non point avec grande pompe, magnificence et richesse, non point avec applaudissement du monde, mais par une mort ignominieuse. Or, les disciples ne pouvaient avoir chose plus difficile à faire que de surmonter un tel scandale. Quant à l'ignominie de la croix, ils n'en avaient pas la moindre idée. Une annonce aussi était pour eux fort étrange, celle de la réprobation par les anciens et les scribes qui avaient le gouvernement de l'Église, d'où il est aisé de conclure combien cet avertissement leur était nécessaire. Alors Calvin brille rarement par la bienveillance, en tout cas c'est souvent le sentiment qu'on peut avoir. Mais ici, j'ai quand même l'impression qu'il a été sensible à la dureté apparente et réelle de l'attitude et des mots de Jésus et qu'il s'est senti obligé de les expliquer, sinon de les justifier. Et aujourd'hui encore, nous non plus, l'ignominie de la croix, comme on dit, nous ne l'acceptons pas. Nous n'en avons pas la moindre idée, pour citer Calvin. Aujourd'hui encore, de nombreux théologiens continuent à s'interroger sur ce texte et s'opposent, harmonieusement, mais s'opposent quand même, sur le sens de cette annonce contrastée de la croix et de la résurrection de Jésus. Est-ce qu'on aurait encore de nouveau affaire à cette idée ancestrale, presque préhistorique, cette idée si longtemps répandue dans les églises et qu'on peut encore entendre à certains endroits aujourd'hui, cette idée d'un Dieu qui exigerait un sacrifice, et ici un sacrifice humain, un sacrifice pour calmer sa colère. Est-ce que la croix n'annonce pas plutôt le nouveau visage de Dieu, celui d'un Dieu qui s'offre aux hommes en acceptant tout de leur part, y compris leur cruauté? Je ne souhaite pas répondre aujourd'hui, d'abord parce que je n'ai pas la réponse. On peut la chercher ensemble. Et je pense que nous aurons d'ailleurs l'occasion cette année de nous interroger ensemble sur le sens de la croix, par exemple pendant le carême. Et surtout parce que je voudrais simplement vous proposer deux réflexions personnelles pour accompagner et conclure notre lecture d'aujourd'hui. La première, c'est que les évangiles nous renseignent énormément sur la vie et les problèmes vécus ou discutés par les communautés dans lesquelles, pour lesquelles, ils ont été rédigés. Cette scène qu'on retrouve dans les évangiles de Matthieu et de Luc, sous des formes un peu plus développées et pour cause. Oui, bien sûr, d'une manière ou d'une autre, cette scène a probablement eu lieu. Oui, Jésus a probablement dit des paroles telles ou proches de celles qui nous sont rapportées. Mais s'il y a une chose que je crois avoir comprise pendant les 3 années de ma mission précédente, c'est que les rédacteurs des évangiles avaient probablement aussi dans leur communauté une responsabilité de type pastoral. Et quand ils décidaient de raconter quelque chose, c'était sûrement à cause de témoignages, à partir de témoignages, des témoignages plus ou moins authentiques, retravaillés, mais bien sûr des témoignages, mais c'était peut-être souvent aussi pour répondre aux problèmes qui se posaient dans leur communauté. Par exemple, pour prendre un exemple très différent, quand l'évangile de Jean raconte l'histoire de la femme adultère, quelle que soit la réalité historique de cet épisode, on peut aussi se demander si celui qui a écrit le texte n'a pas été confronté à un problème du même genre et s'il n'a pas écrit l'épisode aussi de cette manière pour en finir avec la lapidation. En tout cas, c'est bien une possibilité. Eh bien là, pour moi, c'est un peu pareil. Dès le début, dans les premiers siècles, un grand nombre de personnes refusent le scandale de la croix, le jugent incompatible avec l'affirmation de la divinité du Christ. C'est un sujet de débat qui va perdurer dans l'Église, et puis en dehors d'elle, après le IVe siècle, quand ces questions même, et des réactions telles que celles de Pierre, seront considérées comme des hérésies. Et c'est un débat qu'on retrouvera même pendant longtemps, y compris sur les terres imbibées de ces hérésies, dans les textes qui ont été peut-être en partie à l'origine de la rédaction du Coran. Et si le sujet était déjà discuté dans les premières communautés, et bien sûr avec les Juifs, raconter cette scène dans l'Évangile, c'était déjà aussi pour le rédacteur, les rédacteurs, une manière de déminer le terrain, de répondre aux questionneurs, de leur dire « D'accord, ta question est humaine. D'ailleurs, notre apôtre Pierre a eu la même réaction. Mais regarde comment le Seigneur lui a répondu et ne deviens pas Satan à ton tour. » Et la deuxième et dernière réflexion personnelle que je voudrais vous proposer porte sur la réponse spontanée de Pierre. « Toi, tu es le Christ. » Le Christ, au-delà du possible malentendu politique. Je crois que cette réponse a surtout à voir avec la question qui habitait Ésaïe, l'éloignement entre la terre et le ciel, l'incommensurable distance entre les voies de Dieu et les nôtres. Et si nous sommes ici aujourd'hui, c'est que d'une manière ou d'une autre, selon chacun, nous souffrons de cette distance et nous cherchons comment l'abolir. Nous cherchons à nous rapprocher de Dieu, tout en sachant que nous ne pourrons pas y parvenir par nous-mêmes, et peut-être pas y parvenir du tout. Or, aujourd'hui, c'est quand même un peu pour moi ce qu'on appelle la minute de vérité. Alors, vous trouvez peut-être que cette minute s'éternise. Mais comme je l'ai dit au début, si je vous ai proposé d'entendre ces textes ensemble, c'est que pour moi, ils se répondent. Toi, tu es le Christ. Cette réponse de Pierre nous projette dans l'attente messianique enfin comblée, dans un temps où le Seigneur, tant recherché, se laisse enfin trouver. En Jésus, le Christ, Pierre voit disparaître cette distance incommensurable entre la terre et le ciel qui écartèle les humains depuis toujours, qui les force à lever la tête pour chercher. Et même dans son incompréhension indignée, et même lorsque l'annonce de la passion, puis le rabrouement de Jésus sont à la limite du supportable, non seulement Pierre va rester, mais il va continuer à suivre et continuer à chercher. Parce que pour lui, comme pour nous, de manière différente, mais bien sûr toujours dans l'incompréhension et les reniements, toujours, dire que Jésus est le Christ, dire à Jésus qu'il est le Christ, c'est déjà le suivre. Et c'est encore et toujours le chercher. Amen.